Bon, nous allons redémarrer. On a depuis ce matin, si vous pouvez vous installer. Alors, je redis aussi, parce que Dominique a été encore interpellé, je vous rappelle qu'à toutes les séances pour les gens du DU, vous avez toujours, toujours les diaporamas sur le site. Donc, voilà, c'est toujours fait. Jacqueline nous met toujours. Donc, je croyais que tout le monde avait compris. Toujours sur le site, vous trouvez tous les diaporamas. Et les gens qui font le DPC aujourd'hui, on s'arrangera aussi pour vous faire passer les diaporamas qui ont été donnés aujourd'hui. L'intervention audio, non, il y avait... Non. Ah non, non, l'intervention audio ne sera pas sur le site. On vous met sur le site uniquement les deux, enfin, quand les intervenants viennent avec un PowerPoint et on vous met les PowerPoint. Là, vous l'avez entendu ce matin, donc c'est pas... Voilà, donc nous accueillons pour finir cette journée Édouard Durand. Édouard Durand a été juge des enfants à Marseille. Il a été aussi formateur à l'École nationale de la magistrature à Paris. Il est maintenant juge des enfants. Il a voulu redevenir juge des enfants à Bobigny. Il a aussi d'autres missions à l'heure actuelle. Il est membre du Conseil national de la protection de l'enfance et co-président de la commission violence du Haut Conseil à l'égalité. Il a écrit déjà deux ouvrages, Violence conjugale et parentalité, protéger la mère, c'est protéger l'enfant, et un autre, plus récent je crois, Violence conjugale, le droit d'être protégé, protégé et eux, puisqu'il s'agit là aussi des mères. Donc il va nous parler de quelque chose dont on a juste effleuré le thème un petit peu ce matin, de l'impact de ce que l'on appelle les violences conjugales et des effets, évidemment, sur les enfants qui, même s'ils ne sont pas eux directement violentés, subissent ou assistent à des violences conjugales. Merci beaucoup, malgré toutes vos activités, Monsieur Durand, de votre présence.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Pas très bien.
Il faut que tu rapproches un peu le micro, c'est parce que tu parles doucement. Voilà, ça va aller.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci beaucoup de ces mots d'accueil. Et je suis très heureux de pouvoir participer à nouveau, c'est un rituel désormais, aux sessions du diplôme universitaire adolescent difficile. C'est très important pour moi, comme juge de la famille et de l'enfance, de pouvoir rencontrer d'autres professionnels et de évoquer avec vous ce que mon expérience juridictionnelle me permet de dire des violences conjugales. Et c'est extrêmement important que nous ayons tous des espaces pluridisciplinaires pour mieux penser ce qui est commun à nos différentes fonctions. Et cette semaine, je dirige une session de formation à l'École de la magistrature, dont je me suis échappé pour venir à votre rencontre, consacrée à l'enfant maltraité, et dans laquelle il y a des magistrats, des éducateurs, des éducatrices, des psychologues, des pédopsychiatres, des gendarmes. Et ces espaces-là sont très importants pour nous, même si nous nous côtoyons chaque jour, plutôt aux prises avec les difficultés de la clinique ou de l'éducation ou de la juridiction. Ces moments sont très importants, en tout cas à mes yeux, et je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous partagez ce point de vue. Et c'est spécialement important pour moi de parler des violences conjugales, même si, comme juge des enfants depuis maintenant une quinzaine d'années, j'étais aussi juge aux affaires familiales et juge pénal avec le contentieux pénal de la famille dans les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises. C'est un problème parmi les plus aigus que nous ayons à traiter. L'un de ceux qui confronte le plus l'enfant à l'expérience de la mort, dans le lieu qui devrait être pour lui le lieu de la protection et de la réassurance, et qui devient alors le lieu du danger. Avant de commencer, je fais quelques remarques. La première, c'est que Vous avez entendu le sous-titre du premier livre que j'ai écrit. Le second, d'ailleurs, est co-dirigé avec Ernestine Ronet, qui est elle aussi membre du Haut Conseil à l'égalité. Et le sous-titre est « Protéger la mère, c'est protéger l'enfant ». D'une certaine manière, je pourrais partir, puisque j'ai dit tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Et c'est une manière de voir ces pensées, les violences conjugales, comme un passage à l'acte unilatéral de l'agresseur contre la victime, d'une part, et les pensées comme une forme de violence sexuée, d'autre part. C'est une manière de nommer le réel. Et on dit parfois que c'est une posture militante. Je l'admets. À la condition que celles qui se permettent ce type de réflexion consentent à dire que leur posture est également militante. Dire que les violences conjugales sont une forme de pathologie du lien, de relation pathologique dans laquelle les deux membres du couple, l'agresseur et la victime, sont co-responsables à égalité, c'est aussi une position militante. Autrement dit, il n'y a pas de position neutre. Nous faisons toujours un choix qui dit quelque chose de la façon dont nous percevons le sens de notre fonction et notre rapport à la loi. Je dis une forme de violence sexuée. J'ai bien conscience que les violences conjugales peuvent survenir dans toutes les configurations conjugales, de l'homme contre la femme ou de la femme contre l'homme dans le couple hétéro, ou de l'homme contre l'homme ou de la femme contre la femme dans le couple homosexuel. Mais nous savons que massivement, le réel auquel nous sommes confrontés est que les violences conjugales sont une forme de violence sexuée de l'homme contre la femme. Si je vous disais que 99,9% des enfants que je juge et que je condamne sont des individus de sexe masculin, je pense que ça ne ferait pas contestation. Ça ne m'empêche pas de mettre en prison des filles, mais beaucoup plus rarement. Dire aussi que ce sont des violences sexuées parce que nous savons que les violences conjugales surviennent souvent ou s'aggravent au moment du deuxième trimestre de grossesse, et à ma connaissance, c'est une expérience encore exclusivement féminine. Une forme de violence sexuée, enfin, parce qu'elle s'inscrive dans ce que beaucoup appellent le continuum des violences faites aux femmes, qu'il s'agisse des violences sexuelles, conjugales, du harcèlement, et de toutes les formes de violence. Et d'ailleurs, la totalité des dispositifs de protection qui existent aujourd'hui et qui permettent d'assurer la protection des victimes de violences conjugales, femmes ou hommes, ont été inventés par des professionnels qui ont pensé ces violences comme une forme de violence sexuée. Et c'est pourquoi dans mon propos, je m'autoriserai à dire l'agresseur, l'homme, le mari, le père, et la victime, la femme, l'épouse, la mère. Autre remarque que je voudrais faire, c'est que nous exerçons nos fonctions dans une période qui est l'une des périodes des plus grands bouleversements du droit de la famille, telle qu'aucune génération dans l'histoire de l'humanité l'aura connue jusqu'à présent. C'est du moins mon point de vue. En quelques années, nous sommes passés de la puissance paternelle à l'autorité parentale. Nous avons modifié les règles de transmission du nom patronymique. Nous avons modifié les règles du mariage et de la filiation. Nous nous interrogeons benoîtement sur l'opportunité de donner à l'adolescent un statut de pré-majorité. Et ce sont, comme vous le savez, le droit de la famille et de la filiation est l'un des piliers d'une civilisation, donc ce qui nous fonde et nous permet de tenir ensemble, de nous parler et de vivre ensemble. Je ne dis pas que je le regrette, chacun se fait son point de vue, mais ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut avoir conscience que nous exerçons nos fonctions dans cette période où le langage commun, où ce qui paraissait évident aujourd'hui est remis en question, et cela ne facilite pas notre tâche. Qu'on l'approuve ou qu'on le désapprouve, je ne donne pas mon point de vue. Et il me semble que dans cette période de mutation très grande, nous abordons la famille avec un principe quasiment exclusif et qu'on appelle la coparentalité. Dès lors que nous abordons les familles des autres, pas les nôtres, mais celles des autres, nous n'avons qu'un mot à la bouche, la coparentalité. Et bien sûr que c'est un principe qui est très important et fécond même, et mon expérience de juge des enfants me le démontre. Souvent, j'ai vu combien un enfant est fragilisé lorsque ses parents, même s'ils sont séparés, n'arrivent pas à prendre des décisions conformes à ses besoins, ou au contraire, qu'il est consolidé quand ses parents parviennent à le faire malgré la séparation. Mais il faut pouvoir penser des exceptions à la coparentalité. Un principe qui ne supporte pas d'exception n'est pas un principe, c'est une idéologie. Et j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu plus en détail. Dernière remarque que je voudrais faire, c'est que nous savons qu'une personne qui subit des violences devient objet de violence. De sorte que notre rôle, en référence à la loi, quelle que soit notre fonction, est de permettre à cette personne de redevenir sujet. Sujet de sa protection et de la protection de ses enfants. Sujet de protection et non pas objet de protection. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand le temps est compté. Alors, j'ai pris conscience du problème des violences conjugales lors de mes premières années de fonction, dans le premier poste de magistrat que j'ai occupé. Et j'étais alors juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonction, enfin les professionnels qui sont familiers du monde judiciaire les connaissent. Disons qu'un juge placé, c'est un juge de renfort ou de remplacement. Et si bien que pendant les 3 ans où j'ai exercé cette fonction, j'ai été quasiment simultanément juge des enfants, juge aux affaires familiales et juge pénal, juge correctionnel avec le contentieux pénal de la famille. Et assez vite, je me suis rendu compte de 2 choses. La première chose, c'est que comme juge dans ces 3 fonctions différentes, j'étais très souvent confronté à des situations de violence conjugale. Autrement dit, que les familles qui avaient besoin de la justice étaient plus souvent que dans d'autres cas des familles confrontées aux violences conjugales. Et la seconde chose dont je me suis rendu compte, c'est que je n'apportais pas la même réponse à ce problème unique selon la fonction que j'exerçais. Lorsque j'étais au tribunal correctionnel, je disais à l'agresseur « Vous avez transgressé la loi, vous êtes déclaré coupable et vous êtes condamné. » Et puis je passais dans le cabinet du juge aux affaires familiales et je disais au couple « Les violences conjugales alléguées par la demanderesse au divorce sont bien établies. Le divorce est prononcé au tort partagé. La responsabilité, c'est 50-50. Et puis, je passais dans le cabinet du juge des enfants, et là, je parlais comme un juge des enfants. Je ne sais pas s'il y en a dans l'assistance, mais vous savez comment parlent les juges des enfants. Je disais, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que le simple rapport auteur-victime. Et je finissais par tenir une parole judiciaire en deçà de la loi, qui mettait les familles, mais aussi les professionnels de l'enfance en grande difficulté. D'une certaine manière, c'est étonnant. Comment se fait-il que le même bonhomme, le même Édouard Durand, avec sa même robe de juge, tienne une parole judiciaire aussi différente selon la fonction qu'il exerce. Et je pense que l'on peut tenir ce déplacement du positionnement professionnel du juge pour une métaphore de la façon dont nous tous, dont la société, regardons les protagonistes des violences conjugales. D'abord, nous regardons l'agresseur. Oui, nous sommes obligés, le passage à l'acte, la violence, les ITT, l'impact de la violence sur la victime. Mais très vite, nous déplaçons notre regard et nous regardons le couple. Nous nous disons, mais au fond, est-ce que les violences conjugales, ce ne serait pas un mode de vie que choisiraient certains couples ? Il y en a qui décident de sortir une fois par semaine, moi avec mes copains, toi avec tes copines, pour faire baisser un peu la pression du quotidien. Puis il y en a qui choisiraient violence conjugale. Et puis, très rapidement encore, nous nous autorisons à déplacer notre regard pour le focaliser sur la victime. Nous nous disons, mais pourquoi le reste ? Parce que moi, je peux vous dire, ça m'arriverait, je partirais. Et puis, si elle part, nous nous disons, mais pourquoi elle part ? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'essayer de me manipuler ? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'essayer de me faire le coup de l'aliénation parentale pour gagner sa séparation ? Si j'avais le temps, j'ouvrirais une parenthèse. Mais vous aurez une question sur le sujet qui est, je trouve... Après 15 ans en protection de l'enfance, j'ai le temps, j'ouvre une petite parenthèse. En général, il y en a 4834, donc je commence à la 3262. Je trouve que nous ne regardons pas du tout de la même façon les pères et les mères en protection de l'enfance. Je trouve que, je pense, j'affirme au fond, puisque c'est mon point de vue, que nous ne portons pas du tout le même regard sur les pères et sur les mères. Notre regard sur les pères est un regard assez distancié et plutôt bienveillant. S'il est présent, on lève les bras au ciel et on dit « Hourra !» Et s'il est absent, on en fait le reproche à la mère. Mais ce n'est pas de la même façon que nous regardons les mères. Nous ne regardons pas seulement si elles sont présentes ou absentes. Nous regardons comment elles exercent leur autorité parentale, d'une manière plutôt intrusive. C'est difficile d'être une bonne mère en protection de l'enfance. Disons que si elle ne va pas chercher son enfant à l'école, on dit qu'elle est négligente. Si elle va chercher son enfant à l'école, on dit qu'elle est étouffante. Et si elle lui apporte à goûter, on dit qu'elle est fusionnelle. Et vous connaissez, pour l'écrire très souvent, la récurrence de ce mot s'agissant des mères en protection de l'enfance. Je ferme la parenthèse. Elle suscitera le débat tout à l'heure vers 8h, 8h30. Et je reviens à ce que je disais sur ce mécanisme de déplacement du regard qui est au fond un mécanisme de déni de la violence. Et il est peu d'infractions pénales pour lesquels nous procédons de la sorte. Détourner notre regard de l'agresseur vers la victime d'une façon plutôt culpabilisante, j'y reviendrai tout à l'heure. Lorsque j'étais juge des enfants à Marseille, j'avais coutume de dire que au moins un tiers de mes dossiers étaient des dossiers de violence conjugale. Un tiers de mes dossiers en assistance éducative, mais aussi un tiers de mes dossiers d'enfants délinquants. je vous ferai remarquer que dans un cabinet de juge des enfants, vous n'avez aucun fait générateur d'une procédure qui soit de l'ordre d'un tiers. Vous n'avez pas 30% de parents toxicomanes. Vous n'avez pas 30% d'enfants toxicomanes. Vous n'avez pas 30% d'enfants suicidaires. Vous n'avez pas 30% d'enfants violés. Et vous avez au moins 30% d'enfants victimes des violences conjugales. C'est la proportion que donne aussi Karen Sadlier, psychologue clinicienne, qui a longtemps dirigé l'unité enfant de l'Institut de victimologie de Paris et qui disait que sur 2000 consultations d'enfants traumatisés chaque année, un tiers étaient des enfants victimes des violences conjugales. Mais cette proportion est déjà en deçà du réel. Ernestine Ronet, qui est la responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes du département de la Seine-Saint-Denis, ancienne coordinatrice nationale de la lutte contre les violences conjugales, nous dit que dans son expérience de psychologue scolaire, un enfant sur deux reçu en consultation était un enfant victime des violences conjugales. Maurice Berger, que vous connaissez sans doute, dans son expérience clinique au centre hospitalier de Saint-Étienne, hôpital de jour et hospitalisation à temps complet, nous disait d'une part que les enfants les plus violents n'étaient pas les enfants qui avaient subi directement des violences, mais les enfants victimes de violences conjugales, et il nous disait d'autre part que la moitié des enfants qu'il recevait en consultation étaient victimes de violences conjugales. Il poursuit aujourd'hui son activité clinique dans un centre éducatif renforcé, c'est-à-dire dans lesquels nous envoyons les adolescents les plus violents, et il dit que 60 à 70% des enfants délinquants confiés au centre éducatif renforcé sont des enfants victimes des violences conjugales. Et pourtant, dans un cabinet de juge des enfants, les violences conjugales, ça n'existe pas. Dans les jugements du juge, dans les expertises des psychologues, les évaluations des assistantes sociales ou les rapports des éducateurs, les violences conjugales, ça n'existe pas. On n'écrit pas, on ne dit pas que l'enfant est victime de violences conjugales, on dit qu'il assiste aux disputes de ses parents. On dit qu'il est otage du conflit conjugal. On ne dit pas que sa mère est sous emprise, on dit qu'elle est ambivalente. Vous comprenez, un jour elle part et le lendemain elle revient. On ne parle pas d'homicide conjugal et encore moins de féminicide. On parle de drame passionnel. À tous les coups, on parle de drame passionnel. Alors j'ouvre une parenthèse et qui me paraît très importante, à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Parce que vous le savez bien, quand on choisit de travailler dans les familles des autres, il faut être au clair avec nos représentations personnelles et collectives de la famille. Qu'est-ce que c'est pour toi, Édouard Durand, vivre en famille quand tu prétends juger les autres? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit que c'est un drame passionnel? On dit que l'amour et la violence sont compatibles. On dit que l'on peut réduire à l'état d'objet quelqu'un que l'on dit aimer et que l'on peut aimer quelqu'un que l'on réduit à l'état d'objet. Mais vous le savez, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve la joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Vous avez reconnu saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. C'est un texte qui fonde une civilisation, on peut le lire. Ce que dit saint Paul, c'est que l'amour et la violence ne sont pas compatibles. Et je voulais ouvrir cette parenthèse qui me paraît très importante, car nous nous utilisons le vocable et le champ lexical et le registre de l'amour d'une façon très particulière en protection de l'enfance. Je suis prêt à en rediscuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Ne pas dire les mots, c'est encore être dans le déni. Et ne pas dire les mots permet de ne pas tirer les conséquences du réel que nous ne nommons pas. Pour le dire autrement, quelle est la différence entre un jugement d'un juge aux affaires familiales qui concerne une famille dans laquelle il y a des violences conjugales et un jugement d'un juge aux affaires familiales qui concerne une famille dans laquelle il n'y a pas de violences conjugales? Il n'y a aucune différence. Exercice conjoint de l'autorité parentale, droit de visite et d'hébergement usuel quand ce n'est pas la résidence alternée. C'est donc que les violences conjugales ne sont pas un fait générateur d'une décision particulière adaptée au modèle. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce déni ? Je vous propose plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que nous tolérons les violences conjugales. Non, pas exactement, mais quand même. L'une des premières fois où j'ai évoqué les violences conjugales à l'École nationale de la magistrature, et que je disais ce que je suis en train de vous dire, un de mes collègues m'interrompt, c'était Monsieur Violence Conjugale dans son tribunal. Et il me dit, oui, mais si elle le trompe, il a le droit de la frapper. Alors lui, il l'a dit. Mais moi, est-ce que ça m'est déjà arrivé de le penser? Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je me souviens d'une audience, il y a longtemps, j'évoquais les violences conjugales à l'audience, et puis l'éducateur de l'aide sociale à l'enfance dit « Oui, oui, c'est vrai, mais bon, bah, quand on voit la mère, on comprend que... » C'est dur d'être une bonne mère en protection de l'enfance. Ou je me souviens aussi qu'à l'École nationale de la magistrature, c'est une école, donc on donne des devoirs aux auditeurs de justice, et le devoir qu'ils devaient faire, c'était un réquisitoire définitif, c'est-à-dire l'acte du procureur de la République par lequel le procureur résume l'affaire à la fin du travail du juge d'instruction et demande au juge d'instruction de renvoyer devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Et c'était un dossier qui n'avait rien à voir avec des violences conjugales, c'était un dossier de tentative de viol et d'agression sexuelle. Une femme rentre chez elle le soir et un inconnu la suit dans la rue. Et elle rentre dans le porche de son immeuble et l'inconnu la suit. Elle monte dans son appartement et il rentre dans son appartement. Et il va l'agresser sexuellement et tenter de la violer. Cette femme devra son salut à elle-même, mais aussi à l'intervention d'un voisin, dont l'audition par les services de police m'a beaucoup intéressé pour notre sujet. Il dit « J'étais chez moi ». J'étais assis sur mon canapé, je regardais la télé, je me vois à sa place. Et puis j'ai entendu du bruit dans l'appartement à côté. Et bon, j'ai continué à regarder la télé. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu que la femme criait « Arrêtez ! Lâchez-moi !» Comme elle l'a vouvoyé, j'ai compris que ce n'était pas une dispute de couple. Alors je me suis levé, je suis allé lui porter secours. Mais vous comprenez que ça pourrait être moi, c'est le point de départ, ça pourrait être nous. Le même fait, viol, déclenche chez le citoyen que je suis deux réactions différentes. Je me lève et je vais porter secours ou je continue de regarder la télé chez moi, selon que je pense qu'il s'agit d'un viol ou d'une dispute conjugale. Première hypothèse. Seconde hypothèse, c'est que nous ne savons pas quoi voir. Nous ne savons pas ce que nous cherchons. Notamment en protection de l'enfance, les conséquences des violences conjugales sur les enfants. Nous ne repérons pas les signes. Et vous le savez, cet immense écrivain français qui est Charles Péguy, qui dit « Le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. » La troisième hypothèse, qui est liée à la précédente, c'est que identifier, voir les violences conjugales implique pour chaque professionnel de leur donner une réponse adaptée. Or, il me semble que les violences conjugales, d'une certaine manière, on pourrait dire aussi les violences sexuelles, confrontent les professionnels que nous sommes aux limites de leurs compétences. Que les violences conjugales, on pourrait le dire aussi des violences sexuelles, viennent tester la validité des principes que l'on m'a enseignés à l'École nationale de la magistrature et qui me structurent comme juge et qui me font tenir sur mon siège de juge. Quand j'étais professeur à l'École de la magistrature, je disais aux futurs juges des enfants, la société vous demande une chose, c'est de tenir sur votre siège. Mais il m'est arrivé de tomber, moi, de mon siège, physiquement. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître en audience, de me retrouver par terre. Bien sûr, il y avait une cause qui pouvait expliquer ça, c'est que j'ai fait bouger les roulettes pour attraper un document. Mais le résultat est là, c'est que je suis tombé devant la famille. Et c'était devant un agresseur. Je suis tombé de mon siège. Parfois seulement métaphoriquement, mais ce jour-là, réellement. On dit d'ailleurs, vous savez, on raconte toujours dans les métiers, il y a toujours des histoires du métier. Alors il y a une histoire qu'on raconte dans la magistrature, c'est qu'à l'audience correctionnelle, le président donne la parole à madame la procureure pour qu'elle prenne ses réquisitions, et madame la procureure commence à se lever pour prendre ses réquisitions, et sa robe se prend dans les pieds de son fauteuil. Alors elle est toute embarrassée pour parvenir à ce pied. Elle finit quand même par arriver à se lever et elle dit « Ne pensez pas que la justice se dérobe. » C'est beau, hein ? Quel principe ? Le premier principe, c'est le sacro-saint principe de la charge de la preuve. Comment prouver ce qui se passe à l'intérieur des maisons des autres quand les portes et les fenêtres sont fermées ? C'est sans doute la raison pour laquelle le législateur, inspiré par Ernestine Ronai au moment de la création de l'ordonnance de protection par la loi du 9 juillet 2010, a disposé que le juge aux affaires familiales pouvait rendre une ordonnance de protection dès lors qu'il avait acquis la vraisemblance des violences. Et je vous ferai remarquer que le contraire de vraisemblable, c'est invraisemblable. Deuxième principe juridictionnel mis à l'épreuve par les violences conjugales, c'est le principe du contradictoire. Aucun juge ne peut rendre une décision s'il n'a pas vérifié que toutes les parties au procès avaient été mises en situation de prendre connaissance des informations transmises par les autres, principe que nous tirons jusqu'à la réunion de tout le monde à une audience commune. Mais au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises, entre l'agresseur et la victime, il y a 5 mètres de distance, 3 gendarmes et 2 avocats. Dans le bureau du juge des enfants, il y a 5 centimètres de distance. Comme à la réunion parents-prof. Comme au rendez-vous éducatif. J'y reviendrai tout à l'heure. Et le dernier grand principe juridictionnel mis à l'épreuve par les violences conjugales, c'est le sacro-saint principe de l'impartialité des juridictions. Le juge doit être à équidistance de chacune des parties. Il ne doit pas prendre parti. Cela dit, juger, c'est prendre parti. Sinon, c'est une autre forme de déni qui serait le déni de justice. Allez, pour que ce principe soit un peu plus commun à tous les métiers qui sont là, on dirait primum non nocere. Ou bien on dirait la neutralité bienveillante. Ça vous parle davantage ? Et un psychothérapeute qui s'appelle Pierre Lassu, qui a écrit plusieurs livres, notamment Bienfaits et méfaits de la parentalité, dit « Entre le loup et l'agneau, être neutre, c'est être du côté du loup. » Je ne dis pas que je ne dois pas respecter ces principes, sans quoi je ne serai plus juge. Je dis que je dois les respecter d'une façon qui leur permette de garantir ce pour quoi ils ont été créés, le respect de la loi et la répression de la transgression de la loi. Nos espaces professionnels ne peuvent pas être des espaces que l'agresseur peut utiliser pour perpétuer son emprise. Et sa dernière hypothèse qui explique ce déni, c'est que la violence, ça fait peur. En tout cas, moi, la violence, ça me fait peur. Une audience avec un sujet violent me fait peur. Et j'y pense la veille. Et je développe des stratégies pour me protéger de la violence. Et le premier mécanisme de défense contre la peur, c'est le déni. Ce que certains appellent la complicité institutionnelle avec l'agresseur. Pour parler comme Patricia Romito, universitaire italienne. Et c'est pourquoi il me paraît indispensable de dire que l'enfant est victime des violences conjugales. D'opposer à ce déni, cette prise de conscience que l'enfant est victime des violences conjugales, c'est une discussion qui agite un peu la doctrine actuellement, comme vous le savez, depuis quelques années. Doit-on dire que l'enfant est témoin de violences conjugales, c'est-à-dire d'un fait qui lui est extérieur, mais auquel il assiste ? Doit-on dire qu'il est exposé aux violences conjugales, comme on est exposé aux rayons du soleil ? Doit-on dire qu'il est victime des violences conjugales ? Nous pensons qu'il est indispensable de dire qu'il est victime ou co-victime, pour parler comme Ernestine Ronet et Karen Sadi. Pourquoi ? Parce que si nous disons que l'enfant est victime des violences conjugales, alors nous sommes obligés de le protéger. C'est notre métier. Ensuite, dire que l'enfant est victime ou co-victime des violences conjugales, c'est dire qu'il est comme sa mère, victime des violences conjugales. À une place différente. Dans une responsabilité de protection l'un par rapport à l'autre différente, à un stade de son développement personnel différent, mais tous les deux victimes. Et donc, c'est mettre en évidence les enjeux de symétrie et d'asymétrie dans la famille. Et vous le savez, il y a toujours dans la famille des enjeux de symétrie et d'asymétrie. Dans une famille gouvernée par le principe juridique de la puissance maritale et paternelle, quel est le rapport de symétrie et d'asymétrie ? Dans une famille gouvernée par le principe de la puissance maritale et paternelle, puissance maritale abolie en 1938, paternelle en 1970, c'est-à-dire hier. L'homme marié père est dans une position asymétrique vis-à-vis de la mère et de l'enfant, qui sont tous les deux dans une position symétrique, tous les deux soumis à la puissance dont est titulaire l'homme marié père. Dans une famille gouvernée par le principe juridique de l'autorité parentale, quel est le rapport de symétrie et d'asymétrie ? Le père et la mère sont dans une position symétrique, tous les deux titulaires de l'autorité parentale et le plus souvent de son exercice. Et ils sont dans une position asymétrique vis-à-vis de l'enfant qui est soumis à l'autorité dont ses parents sont titulaires. Vous savez d'ailleurs que dans « Qu'est-ce que l'autorité ?», Hannah Arendt dit que ce que le pouvoir ou la puissance et l'autorité ont en commun, c'est la hiérarchie, la symétrie. Elle ajoute aussi que ce qui les distingue, c'est que l'autorité exclut toujours le recours à des moyens extérieurs de coercition. Autrement dit, l'autorité exclut toujours le recours à la violence. Et dans une famille dans laquelle il y a des violences conjugales, quel est le rapport de symétrie et d'asymétrie? Bon, vous l'avez compris, c'est exactement celui qui existait dans la puissance maritale et paternelle. L'homme marié père obtient par la violence une position asymétrique vis-à-vis de la mère et de l'enfant, tous les deux victimes des violences, dans une position symétrique, quoique une assistante sociale m'ait très justement fait remarquer un jour que la perversion opérée par l'agresseur peut conduire jusqu'à une inversion des positions symétriques et asymétriques entre la mère et l'enfant, l'enfant devenant dans une position asymétrique supérieure vis-à-vis de sa mère, soit comme protecteur, soit comme agresseur. C'est très juste. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut penser l'enfant comme victime des violences conjugales et ne jamais omettre les rapports de symétrie et d'asymétrie dans la famille, ceux qui sont conformes à la loi et ceux qui lui sont contraires. Mais il y a un risque à dire que l'enfant est victime de ces violences, et ce risque, c'est celui que nous courons aujourd'hui à mesure que nous prenons conscience de la gravité de l'impact traumatique des violences conjugales sur l'enfant, c'est justement de dissocier la symétrie entre la mère et l'enfant victime. C'est de dire, mais oui, mais moi, protéger les enfants en danger, je sais faire, c'est mon métier. Avant, je pensais que les violences conjugales n'avaient pas d'effet sur l'enfant. Bon, maintenant, si on me dit que ça a de l'effet, je peux aussi les placer. Je peux faire comme d'habitude. Perdant ainsi de vue la symétrie que nous devons dans la protection de la mère et de l'enfant. Protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Entendu comme il n'y a pas d'autre moyen de protéger l'enfant que de protéger sa mère. Autrement dit, la question qui se pose à nous, si vous voulez, moi quand je suis en audience et que je suis devant une famille dans laquelle il y a des violences conjugales, je ne suis ni l'agresseur, ni la victime, ni l'enfant victime. Je ne suis qu'un tiers. Et la question qui se pose à nous comme tiers dès lors n'est pas pourquoi elle reste, mais qu'est-ce que je lui dis qui va faire qu'elle va rester ou qu'elle va penser qu'elle peut partir. Et c'est donc mon objectif en cette fin d'après-midi, c'est de nous diriger vers des pratiques protectrices communes. Je vous propose de voir ça en deux parties. La première partie, c'est des repères pour comprendre, et la seconde, des moyens pour agir. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que je peux continuer? Alors, d'abord, quelques repères pour comprendre. Le premier repère, c'est la différence violence-conflit. C'est très important. C'est même l'une des choses les plus importantes. Et je pensais que depuis tout ce temps, c'était admis et consensuel. Mais je m'étonne souvent en audience de me trouver dans la situation d'entendre un professionnel de la protection de l'enfance qui passe son audience à dire conflit, 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 conflit. Et je m'entends encore dire à une de vos collègues, il n'y a pas si longtemps, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est un conflit? Et elle réfléchit quelques instants et elle dit, en fait, je ne vois pas d'autres mots. Alors je lui demande, est-ce que vous pensez qu'un des deux parents a peur de l'autre? Elle dit, ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous pensez que le parent qui a peur de l'autre parent peut exprimer son point de vue? Elle dit non, c'est impossible. Alors, lui dis-je, ce n'est pas conflit, c'est violence. Qu'est-ce que c'est un conflit? C'est un désaccord entre deux sujets qui sont dans une position symétrique, qui sont à égalité. Et l'existence humaine confronte nécessairement au conflit. La conduite automobile confronte nécessairement au conflit. La vie professionnelle confronte nécessairement au conflit. La vie conjugale et l'expérience de la parenté, plus que tout, confronte nécessairement au conflit, c'est-à-dire à l'expérience de la différenciation. Je vous ferai remarquer que dans un conflit, les deux personnes sont dans une position symétrique et que la personne qui exprime un point de vue discordant, « je ne suis pas d'accord avec toi », ne court aucun danger. Et que sa parole est légitime. C'est la parole d'un sujet dont la parole est légitime. Et même que ta parole peut me faire changer d'avis. Au fond, c'est vrai, t'as raison. Inscrivons-le au volleyball. Ou non, je ne suis pas d'accord. Il y a trop de tournois les week-ends. Et un conflit, c'est autorisé par la loi. On a le droit de ne pas être d'accord et de se le dire. Je me souviens d'une audience quand j'étais juge aux affaires familiales. Les deux parents étaient d'accord pour divorcer. Pas de conflit. Les deux parents étaient d'accord pour dire que leur divorce faisait souffrir leur enfant, un garçon de 12-13 ans. Les deux parents étaient d'accord pour dire que leur divorce faisait tellement souffrir leur enfant qu'il fallait qu'ils voient un pédopsychiatre. Pas de conflit. Mais ils n'étaient pas d'accord sur le choix du pédopsychiatre. Il y en a un qui voulait le docteur Dupont et l'autre qui préférait le docteur Martin. Et ils ont saisi le juge Durand. Et un peu comme vous, vous voyez ma première réaction, oui c'est facile, quand je suis rentré chez moi, puis j'ai dit à une de mes amies qui était là, mais je lui ai dit, mais tu te rends compte que c'est à quel point ses parents sont lamentables, irresponsables? Et elle m'a dit, mais c'est ton métier, tu l'as choisi. Ils ont besoin que tu tranches. Parce que la loi autorise le conflit. Et vous, quand vous choisissez le médecin pour vos enfants, vous prenez au hasard dans l'annuaire? Vous éteignez la lumière, vous rallumez la lumière, vous voyez où votre doigt s'est posé et vous téléphonez? Non, c'est important de choisir un pédopsychiatre, un médecin, un dentiste, un club de sport. Et donc, si c'est important, c'est motif à conflit. Comment résout-on un conflit? La première manière, c'est le langage. Ce qu'Anna Arendt appelle la persuasion. On discute et on trouve un terrain d'entente ou pas. On négocie. Et puis, si on ne trouve pas de terrain d'entente, peut-être qu'on se sépare ou pas. Deuxième manière de résoudre un conflit, c'est l'intervention provisoire d'un tiers neutre, impartial, qui respecte le principe du contradictoire et la charge de la preuve. On appelle ça un juge. Et il tranche, il n'y a plus de conflit. Le conflit peut se déplacer sur un autre sujet, mais le conflit présenté est résolu. La troisième manière de résoudre un conflit, c'est l'intervention provisoire d'un tiers neutre qui met les deux personnes en conflit en présence l'une de l'autre et qui leur fait expérimenter que le dépassement du conflit est profitable à tout le monde. À moi, à toi et à nos enfants. Et on appelle ça une médiation. Et la médiation est un outil très utile pour résoudre un conflit. La médiation est un outil très utile pour résoudre un conflit. La médiation est un outil très utile pour résoudre un conflit. Comme vous ne parviendrez jamais à faire un trou dans du béton avec un tournevis, parce que l'outil n'est pas adapté, vous vous êtes trompé d'outil. Dire cela, ça n'est pas dire que je récuse la médiation, bien au contraire. D'ailleurs, la plupart des médiateurs familiaux que j'ai rencontrés disent « c'est pas nous qui demandons à faire la médiation dans violence conjugale, c'est vous ». Oui, les juges adorent la médiation. Les violences ne sont pas une sous-catégorie du conflit. Mais c'est un modèle différent. Les violences ne mettent pas en présence deux sujets qui sont à égalité dans un rapport symétrique, mais un sujet et un objet dans une relation asymétrique de pouvoir et de domination. N'oublions jamais que la violence n'est qu'un instrument pour obtenir le pouvoir. Et qu'il y a un lien très fort entre le pouvoir et la violence, mais aussi entre la violence et le corps. D'ailleurs, un grand juriste, l'inventeur de l'autorité parentale, qui est le doyen Jean Carbonnier, disait « la puissance maritale et paternelle avait quelque chose d'un droit sur le corps et la personne. Il y avait une certaine absorption de la personnalité de la femme. » Et je voudrais ici convoquer un autre auteur qui est un philosophe allemand contemporain qui s'appelle Jan-Philipp Rentzma et qui, dans Confiance et violence, dit ceci qui me paraît très éclairant et important pour nous dans nos fonctions. Il dit « la violence vise le corps. La violence extrême réduit ceux qui la subissent à leur corporéité. La réduction au corps opérée par l'acte de violence est la raison pour laquelle la violence doit toujours être conçue comme premièrement corporelle. L'essence de la menace de violence est la menace de réduction au corps, laquelle en anticipe déjà la possibilité. C'est extrêmement juste. L'essence de la menace de violence est la menace de réduction au corps, laquelle en anticipe déjà la possibilité. Je pourrais faire une petite parenthèse sur des travaux récents du Haut Conseil à l'égalité et du législateur sur le harcèlement de rue, laquelle en anticipe déjà la possibilité. La violence psychique consiste en la menace d'être réduit au corps. Et Rentzma distingue trois formes de violence. Bon, c'est très simple et très éclairant, c'est pourquoi je prends le temps de le dire, parce que, quelles que soient nos fonctions, même travailler avec les enfants délinquants, je pense que ce sont des ressources intéressantes. Il dit qu'il y a la violence localisante, la violence raptive, et la violence autotélique, autotélique, T-E-L-I-Q-U-E. Vous verrez, c'est simplissime. D'abord, la violence localisante. Rentzma dit, la violence localisante ne s'adresse pas au corps en tant que tel. Elle vise le corps d'autrui pour en déterminer l'emplacement dans l'espace. Elle traite le corps d'autrui comme une masse à disposition. De deux manières, la violence délocalisante, on pourrait dire « dégage, pousse-toi, va dans ta chambre », et la violence captative. Ce n'est pas nécessaire que tu travailles. Je gagne suffisamment ma vie pour la famille. D'ailleurs, comme tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin de carte bleue, ni de téléphone, ni de tes papiers. Nul n'a le droit de voir ton corps dans l'espace public. Violence captative. La violence raptive. Rentzma dit, la violence raptive veut avoir le corps la plupart du temps pour en user sexuellement. Le corps d'autrui n'est pas obstacle ou instrument, c'est la violence localisante, mais il est but. Soumettre au bon plaisir en tant qu'autre corps. Et on comprend bien pourquoi Rentzma dit que la violence sexuelle, mais vous savez que dans les violences conjugales, il y a une dimension de violence sexuelle toujours ou quasiment indicible dans l'indicible. De soumission comme objet par le sexuel, car le pouvoir passe aussi par le sexuel. Je ne peux pas obtenir de jouissance avec ton corps consentant. Moi, je pense que les violences psychologiques perverses sont une forme de violence raptive. Je jouis de faire mouvoir ton corps comme un marionnettiste. Et puis, les violences autotéliques, telos, en grec, la fin, le but. Autotélique, son propre but, sa propre fin. Remsma dit, la violence autotélique vise la destruction de l'intégrité du corps. Jusqu'à la mort. Vous savez qu'il y a une différence entre les homicides conjugaux et les féminicides conjugaux. La plupart des morts dans le couple sont des femmes. Dans la plupart des cas, l'homme tue sa femme. Dans la plupart des cas de féminicide, l'homme tue sa femme après avoir exercé des violences conjugales contre elle pendant la vie commune. C'est l'aboutissement d'une stratégie d'appropriation. Alors que dans la plupart des cas d'homicide, la femme tue son mari après avoir elle-même subi des violences pendant la vie commune. C'est l'aboutissement d'une stratégie de protection. Tu es tout à moi jusqu'à la mort. Alors on dit pourquoi elle ne part pas ? Elle ne part pas parce qu'elle sait qu'elle risque de mourir. L'actualité nous le montre une fois tous les deux jours et demi. C'est donc très important ce passage par le corps. Et puis, je crois que nous pouvons dire que nous sommes des spécialistes de la violence. Nos métiers, enfin je pense la plupart des métiers qui sont représentés par nous aujourd'hui, font de nous des spécialistes de la violence chaque jour. Que Dieu fait, je suis confronté à la violence comme professionnel. Et je sais qu'un humain victime de violence éprouve toujours d'abord deux choses. La honte et la culpabilité. Un adolescent est victime de vol de son téléphone portable en sortant du collège. Il a honte et il se sent coupable. Une femme est victime de viol dans l'espace public. Elle a honte et se sent coupable. La société s'arrange beaucoup pour la culpabiliser, d'ailleurs. Mais la grande différence pour les violences conjugales, ou la, pas différence, mais le en plus, ce qui est commun à toutes les formes de violences familiales, d'ailleurs, c'est que les victimes de violences conjugales sont confrontées à la répétition du fait traumatique et à la présence permanente de l'agresseur. Je suis victime d'un viol dans l'espace public. Je suis victime du vol de mon téléphone portable dans l'espace public. Je peux rentrer chez moi où je serai en sécurité. Pas dans les violences conjugales. Alors, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, peut-être pas d'accord d'ailleurs. Mais on pourrait dire, bon d'accord, on a compris ce qu'il veut dire. Mais alors comment il va arriver à nous expliquer le cas de ces femmes qui, à chaque fois qu'elles quittent un mari violent, c'est pour retourner dans les bras d'un mari violent. Il y a donc bien quelque chose qui vient d'elles. Et moi, je dis non. Je tire mon fil de l'unilatéralité. Et je crois que nous devons nous rendre à l'évidence. Nous ne sommes pas égaux face à la violence. N'importe qui peut subir des violences. Mais nous ne sommes pas égaux face à la violence. Il y a des gens qui sont forts face à la violence. Il y a des gens qui savent repérer la violence alors qu'elle est encore à 3 stations de métro. Vous êtes d'accord avec ça ? Et qui disent, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je le sens pas, je passe par un autre chemin. Et puis il y a des gens qui sont faibles face à la violence. Moi je fais partie des gens qui sont faibles face à la violence. Des gens qui sont démunis face à la violence. Moi, je suis du genre, vous savez, à acheter les 42 tomes de l'encyclopédie Universalis en me disant, surtout, ne dis rien, comme ça, il va sortir de chez toi plus vite. Vous voyez ? Bon, c'est mon histoire. C'est l'éducation que j'ai reçue, sans doute. C'est mon tempérament qui fait que je suis Édouard Durand et pas quelqu'un d'autre. Mais le fait que je sois faible face à la violence ne signifie pas que j'y consens. Le fait que je sois démuni face à l'agresseur ne signifie pas que je suis co-responsable de la violence que je subis. Et puis il y a un dernier élément pour distinguer violence-conflit, c'est la dimension culturelle. Vous savez, parfois on dit, mais vous comprenez, dans ces familles-là, les violences conjugales, c'est culturel. Et moi je réponds toujours, vous avez raison. Les violences conjugales, c'est culturel dans toutes les cultures. Françoise Héritier, séminaire de la violence. Et dans un petit livre que vous avez sans doute, c'est l'occasion de lui rendre hommage évidemment, hein, petit livre que vous connaissez sans doute, « Ces yeux qui te regardent et le jour et la nuit », elle l'écrit, c'est la pensée et seulement la pensée élaborée par nos ancêtres pour donner sens au réel observé qui est en cause lorsqu'on examine de près les conditions de la violence sexuée, qu'elle soit publique ou privée. Car de toutes les espèces animales répertoriées, l'homme est la seule espèce où les mâles tuent les femelles. Et donc ce que la culture a construit, la culture peut et doit le déconstruire. Il y a une autre chose qui me paraît importante et qui découle de tout ça, évidemment, dans la différence violence-conflit, et que je tire de la réflexion que m'inspirait un écrivain qui est un diariste. Et donc il écrit son journal, sa littérature et l'écriture de son journal, et donc le fait de raconter son existence. Et dans une page de son journal, il raconte une scène de ménage dans sa vie de couple. Il raconte une dispute de couple. Et il dit une chose que je trouve très juste, je ne sais pas si vous la partagerez, mais il dit, dans la dispute conjugale, il y a toujours une représentation de la rupture. Et je trouve que c'est très beau et très juste. Ce côté, vous savez, non mais comment j'ai pu vivre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans avec quelqu'un d'aussi naze? Cette fois-ci, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Et puis, en général, on se calme. Et puis, on écrit quelques pages supplémentaires jusqu'à décrire dans la scène de ménage suivante. Eh bien, je pense que dans les violences conjugales, la représentation de la rupture est impossible. Et qu'il y a toujours une représentation de la mort. Ce n'est pas « je m'en vais », c'est « il va me tuer ». « Je vais te tuer ». Et l'enfant se dit « il va la tuer ». Et avouez que cette différence de représentation génère un rapport à l'existence complètement différent. Et pour conclure cette différence, je vous propose quatre grands modèles de séparation conjugale. J'insiste un peu longtemps, je vous prie de m'en excuser, mais ça me paraît très important. Et bon, vous n'êtes pas juge aux affaires familiales, moi non plus d'ailleurs, mais c'est très important. Peut-être que pour mieux comprendre la différence violence-conflit, il faut avoir présent à l'esprit les quatre modèles. Pourquoi je dis quatre modèles? Parce que vous savez, et surtout spécialement nous autres, les magistrats, nous disons, moi vous savez, je fais du cas par cas. C'est la grande phrase des magistrats, qui est un moyen de ne pas rendre de compte. C'est-à-dire, je ne vous dirai jamais comment je juge. Je fais du cas par cas. Moyennant quoi, nous faisons toujours la même chose. AEM au placement ou bien résidence alternée ou résidence chez l'un des deux parents, droit de visite et d'hébergement classique, etc., etc. Nous faisons toujours la même chose, sous couvert de faire du cas par cas. Je pense, je prétends, je vous invite à penser que pour faire du cas par cas, il faut se situer dans des modèles. À partir du moment où je situe mon action dans un modèle, je peux faire du cas par cas. Et je vous propose quatre grands modèles de situation familiale: l'entente, l'absence, le conflit et la violence. je ne reviens pas sur la distinction violence-conflit, mais j'y reviendrai d'un mot quand même tout à l'heure. L'entente, alors on pourrait dire d'ailleurs, et c'est sans doute ce qui fait que vous êtes si nombreux inscrits à ce DU adolescent difficile et professionnel de la protection de l'enfance, c'est que parfois les parents s'entendent pour faire du mal à leur enfant. Ce n'est pas exactement ce dont je veux parler là. Mais parfois ils s'entendent, ils se séparent, mais ils s'entendent. Et même que le dimanche matin, ils se retrouvent tous ensemble pour pique-niquer sur le canal Saint-Martin. Et même que ton nouveau mari, c'est mon meilleur copain, et que ma nouvelle femme, c'est ta meilleure amie. C'est rare. Il paraît que ça arrive, mais c'est rare. Je crois pouvoir dire que l'expérience commune des humains sur la Terre fait dire qu'il faut bien 5 à 10 ans pour parvenir à s'entendre, parce que les ressentiments, ici et là, sont très importants. Et que l'autre, on ne peut plus le voir. Même si on l'a aimé pendant longtemps. C'est comme ça. Le problème, c'est que la société n'a que ce modèle en tête. Ce qui me paraît très grave. Je pourrais ouvrir la parenthèse 8343 et évoquer les questionnements que l'on pourra avoir sur une société hyper libérale. Mais je crois qu'il est très dangereux de créer un modèle social quasi exclusif qui est celui de l'entente au moment où, dans l'existence humaine, c'est le plus difficile de s'entendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me préoccupe beaucoup, ces histoires d'inciter au consentement mutuel, ces histoires de médiation préalable à la saisine du juge, enfin tout ce qu'on dit comme modèle. Il faut absolument que vous vous entendiez. Et si vous ne vous entendez pas, vous allez devoir vous entendre quand même. Et si vous ne parvenez pas, non seulement on va vous interdire de saisir le juge, mais on va vous obliger à faire une médiation. Alors tiens, si les parents s'entendent, est-ce qu'on va les obliger à faire une médiation ? Madame, monsieur, nous constatons que vous êtes d'accord, mais vous comprenez, la société contemporaine adore la médiation, donc vous allez devoir en faire une quand même. Non, on ne ferait pas ça. Est-ce que dans le modèle de l'absence, on va obliger le parent qui est tout seul à faire une médiation ? Madame, nous rendons compte que vous êtes toute seule pour éduquer vos enfants, donc vous allez devoir faire une médiation avec vous-même pour parvenir à un accord avec vous-même. La société investit beaucoup dans ce programme. Alors si on ne le fait pas pour l'entente et pour l'absence, pourquoi le fait-on pour la violence, qui est un autre modèle que le conflit ? Violence-conflit, deuxième repère, l'aliénation parentale. Violence conjugale et aliénation parentale. Vous êtes toujours avec moi ? Pourquoi parler d'aliénation parentale dans violence conjugale ? Je tire mon fil. En fait, on pourrait dire qu'entre le moment où une femme victime de violence conjugale entre au tribunal de grande instance de Bobigny et le moment où elle entre dans mon bureau, elle a parcouru 15 mètres, il s'est passé 2 minutes, et en 2 minutes, elle est passée du statut de femme victime au statut de mère manipulatrice ou aliénante. Entre le moment où elle pousse les portes du commissariat, du service social, de l'école, de l'hôpital, du service éducatif, et le moment où elle entre dans le bureau du professionnel, elle passe du statut de femme victime au statut de mère aliénante. Vous connaissez le syndrome d'aliénation, pardon, je reformule. Vous connaissez le, ouvrez les guillemets, syndrome d'aliénation parentale, fermez les guillemets. Il a été inventé à la fin des années 80 par un psychiatre américain, le docteur Richard Gartner, qui, soit dit en passant, avait des conceptions assez souples sur les rapports sexuels des adultes avec les enfants. Ce n'est pas un hasard, puisque ça a été inventé pour ça, l'aliénation parentale. et qui disait que dans 90% des divorces avec conflit sur la garde, la mère lave le cerveau de l'enfant pour que l'enfant refuse de voir son père. 90% des cas, lavage de cerveau, vous voyez qu'on frappe les esprits. Une fois qu'on a bien frappé les esprits, on édulcore la définition et les auteurs tenant de ce concept disent l'aliénation parentale, c'est le dénigrement systématique du parent non gardien par le parent gardien. Fermez les yeux, voyez la scène, vous voyez les protagonistes à la même place. Et vous comprenez qu'en édulcorant la définition, on en élargit considérablement l'emprise. Et puis on l'a édulcoré encore en disant, dès lors que le parent gardien n'oblige pas l'enfant qui ne veut pas aller chez le parent non gardien à y aller quand même, le parent gardien fait de l'aliénation parentale. Problème, comment être un parent protecteur? Vous avez vu le film Jusqu'à la garde? Qui l'a vu? Oh, pas beaucoup. Bon, ce soir, Jusqu'à la garde. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai posé hier, je ne l'ai pas là. Bon, ce soir, Jusqu'à la garde. Je fais une ordonnance. Bon, est-ce que je peux raconter une scène? Bon, les 30 dernières secondes. Est-ce que je peux raconter une scène? Si je ne peux pas raconter la scène, vous me promettez d'aller le voir ce soir. Bon, je raconte la scène. Mais allez le voir ce soir. Celles et ceux qui l'ont vu me disent si je me trompe. Il y a un moment, il y a une scène où il y a 3 personnes dans une chambre à coucher. Il y a un enfant couché sur le lit, sa mère assise sur le lit à ses côtés et une autre personne à la fenêtre. Vous êtes d'accord? Et l'enfant a mal au ventre. Il a mal au ventre à se faire caca sur lui. Vous êtes d'accord? Et nous, par la magie du cinéma, on est aussi dans la chambre. Vous êtes d'accord? Bien, imaginons que ce ne soit pas du cinéma, mais que ce soit la réalité. Imaginez que cette femme aille au commissariat ou chez le juge ou chez l'assistante sociale en disant « il avait mal au ventre à se faire caca sur lui ». Qu'est-ce qu'on lui dirait? On lui dirait qu'elle fait de l'aliénation parentale. Ou alors on dirait même, parce que comme c'est un syndrome controversé, on l'utilise un peu moins, mais je le lis de plus en plus, on utilise davantage le syndrome de Munchausen par procuration. Dès lors que l'enfant a mal au ventre et qu'il ne veut pas y aller, on dit Munchausen par procuration. Impossible d'être un parent protecteur dans un système tel que celui-ci. Alors qu'il y a des raisons légitimes pour qu'un enfant refuse de voir l'un de ses parents, qui sont l'alliance et le détachement. Si vous avez une question, je dirai. Alors que nous savons que les fausses dénonciations sont marginales et même résiduelles. Ce que le savoir nous enseigne, c'est que les fausses dénonciations sont résiduelles. On étudie 9000 dossiers de divorce. Alors, attendez, là, il faut que je sois un peu plus précis. Étude américaine de 1990, Tones et Jaden, 9000 divorces. Alors, des recherches en sciences sociales avec un échantillon de 9000, vous m'en ramenez quand vous voulez. Vous trouverez difficilement. J'en tiens à votre disposition avec des échantillons beaucoup moins importants. 9000 dossiers de divorce avec conflit sur la garde. Une plainte n'est déposée par un parent contre l'autre pour violence sexuelle que dans moins de 2% des cas. Moins de 180 sur 9000. La moitié de ces plaintes est fondée, un tiers peu probable, le reste, j'ai calculé, ça fait 17%, ne donne pas assez d'informations pour trancher. Les parquetiers disent classement sans suite, infraction insuffisamment caractérisée. Ce n'est pas parce que l'institution a été mise en échec que c'est un mensonge. Ça veut dire que l'institution est en échec. À l'inverse, on étudie non pas les divorces, mais les signalements de maltraitance. 7672, étude Trocmé-Bala, Canada 2005. Sur 7672 signalements de maltraitance sur enfants, on trouve 4% de fausses dénonciations. Le chiffre monte à 12% en cas de conflit sur la garde des enfants. Tout dénonciateur confondu, la mère, le père, l'enfant, le gendarme, la maîtresse d'école, le grand-père, la tante, la voisine. 12%, c'est résiduel. Les fausses dénonciations concerneraient plus la négligence que la violence sexuelle. Accrochez-vous, les fausses dénonciations sont plus le fait du parent, le père le plus souvent, qui n'a pas la garde, que du parent, la mère le plus souvent, qui a la garde. Sur 7672 signalements de maltraitance sur enfants, on trouve 2 fausses accusations intentionnelles contre un père qui n'avait pas la garde. Et pourtant, nos représentations nous font dire le contraire. Nous savons très bien que le risque que nous courons, le risque que je cours comme juge des enfants, n'est pas d'inventer des victimes. Le risque que je cours, c'est de voir passer dans mon bureau des victimes et de ne pas les voir. Nous le savons très bien. C'est vrai aussi pour violences sexuelles. 70% des plaintes sont classées sans suite. Pourquoi ? On dit c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Vous êtes d'accord ? Ou on signale pas, vous signalez pas, parce qu'on dit c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais je me rends compte, en réfléchissant à tous ces problèmes, je regarde tous les vols dont je suis saisi. Toutes les affaires de vol de nos enfants en Seine-Saint-Denis. Mais le nombre de cas où je suis saisi d'un vol, alors que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, est énorme. On dit oui, mais le procureur le dit à l'audience. Mais je le dis aussi dans mon jugement. Il dit, mais la victime, elle le dit. Et puis elle le répète. Elle le reconnaît derrière un miroir sans teint. Pourquoi est-ce qu'elle inventerait ? C'est logique d'ailleurs. Mais quand c'est violence conjugale ou violence sexuelle, on dit le contraire. C'est bien que nos représentations sont en cause. Bon, il faut que j'avance peut-être quand même. Alors, j'ai le temps ? Ah bon ? Bon, je ne partirai que quand il n'y aura plus personne dans cette salle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Deuxième, donc violence-conflit. Violence conjugale et aliénation parentale. Et quelques mots sur violence conjugale et parentalité. Vous allez me dire, c'est le sujet. Donc, dans ce grand 1, grand C, un petit 1, que peut-on dire de l'enfant victime des violences conjugales ? Alors, sur l'impact des violences conjugales sur l'enfant, vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, les violences conjugales commencent souvent au deuxième trimestre de grossesse ou s'aggravent au deuxième trimestre de grossesse. Une étude avait été faite par l'ami prof ou par l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis auprès des sages-femmes. Une enquête de victimation. On ne leur demandait pas de leur parler de leur expérience clinique, mais de leur expérience personnelle. Un nombre très important, je crois que c'est de l'ordre de 40%, mais il faudrait que je cherche, pardonnez-moi cette imprécision, avait reçu des coups sur le ventre pendant la grossesse. Tous les milieux, etc. Y compris les sages-femmes. Ou alors poussées dans les escaliers pendant la grossesse. Des enfants qui naissent avec un état de stress post-traumatique. Fracture fœtale, hypotrophie fœtale, défaut de développement, mort. À partir de la naissance de l'enfant, les troubles vont se développer en 3 grands types de troubles. Les premiers sont les troubles de l'ordre de l'atteinte à soi-même, les seconds de l'ordre de l'atteinte à autrui, et les troisièmes, c'est l'état de stress post-traumatique. Donc je vais vite. Mais en même temps, non, parce que c'est quand même un peu l'objet de tout votre DU. Donc, je vous dis l'impact des violences conjugales sur l'enfant. Autrement dit, je vous dis les signes. Et puis, vous essayez de voir des visages d'enfants que vous rencontrez dans vos fonctions. Quel que soit leur âge et quel que soit le statut leur statut devant vous, y compris si ce sont des enfants délinquants. Donc les bébés, retard staturo-pondéral, inattention, perturbation des habitudes d'alimentation et de sommeil, retard du développement, pleurs inexpliquées, repli, dépression, hypervigilance. Les enfants d'âge préscolaire, actes d'agression, dépendance, repli, anxiété, cruauté envers les animaux, actes de destruction de biens, symptômes du stress post-traumatique, j'en dirai encore un mot tout à l'heure. Période de latence 5-12 en classe primaire, brutalité à l'égard des autres, agressivité générale, dépression, anxiété, repli, symptômes du stress post-traumatique, comportement oppositionnel, destruction de biens, vous voyez les visages ? Mauvais résultats scolaires, manque de respect à l'égard des femmes, convictions stéréotypées à l'égard du rôle des hommes et des femmes. Début de l'adolescence, 12-14 ans, violence à l'égard des personnes fréquentées, brutalité, manque d'estime de soi, suicide, repli, symptômes du stress post-traumatique, pratique de l'école buissonnière, mauvais résultats scolaires, problèmes somatiques, manque de respect à l'égard des femmes. Fin de l'adolescence, 15-18 ans, violence à l'égard des personnes fréquentées, repli dans la famille, toxicomanie, désertion du foyer, baisse soudaine des résultats et de la fréquentation scolaire, manque de respect à l'égard des femmes, je dirais équivalent suicidaire et passage à l'acte suicidaire. Violence à l'égard de la petite amie ou violence contre la mère, vous l'avez vu, je l'ai vu. J'insiste sur état de stress post-traumatique, hypervigilance, les petits bébés, hypervigilance, surproduction de cortisol dans le cerveau, le cortisol envahit spécialement à ce moment-là les zones de régulation des émotions et de l'apprentissage. Hypervigilance. Vous avez des petits bébés qui sont tout le temps là. Ils sont tout petits, mais ils sont tout le temps comme ça aux aguets. Parce que ça peut venir à n'importe quel moment. Reviviscence, cauchemar. Bon, ça m'arrive de faire des cauchemars, donc je vois ce que sont les cauchemars. Reviviscence, j'avoue que c'est toujours demeuré très abstrait pour moi, jusqu'à ce qu'un enfant victime de violence conjugale me l'explique. Il devait avoir 5-7 ans, un petit garçon, et qui me parle, et il était malheureux, vous voyez, il me disait ça, il était malheureux. Et il me dit, je fais des cauchemars, même quand je dors pas. C'est dur, non ? Maurice Berger. L'exposition aux scènes de violence conjugale a d'autant plus d'impact que l'enfant est petit, car pendant la période préverbale, c'est-à-dire lorsqu'il a moins de 2 ans, il n'a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et la scène est intériorisée à l'état brut sous la forme de sons, de cris, de gestes, de regards, on pourrait dire d'odeurs aussi. Ces sensations se fixent au niveau cérébral sous la forme d'une mémoire traumatique qui peut ressurgir telle qu'elle dans des circonstances qui rappellent le passé. Donc il faut l'avoir présent à l'esprit, il est à l'école, il est en train de s'appliquer pour faire son travail, la langue serrée entre les dents, et il fait ses lignes d'écriture, et tout d'un coup, la scène n'est pas dans sa mémoire biographique, autobiographique, elle redevient actuelle. Et puis il balance tout, il bouscule ses camarades. On dit qu'il était hyperactif et on prescrit de la Ritaline. Il est peut-être hyperactif. Il faut peut-être prescrire de la Ritaline. Moi, je ne suis pas médecin. Parmi vous, il y en a. Moi, je ne suis pas médecin. Mais je dis qu'il faudrait s'intéresser à ce qu'il vit à la maison. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on dit que Miri Keren, K-E-R-E-N, professeur à l'université de Tel Aviv en Israël, ancienne ou actuelle même présidente de la WAIM, Association internationale des pédopsychiatres, a dirigé une recherche médicale qu'on présente comme la seule recherche que les médecins israéliens et palestiniens aient réussi à faire ensemble, et qui est une recherche sur les traumatismes infligés aux enfants et les conclusions de cette étude, et que l'impact traumatique des violences conjugales sur l'enfant est de l'ordre de, voire supérieur à, l'exposition de l'enfant aux scènes de guerre ou de terrorisme. Et nous, nous disons, c'est pas parce que c'est un mari violent que c'est un mauvais père. Il l'emmène au milieu des scènes de terreur du Bataclan tous les week-ends. c'est de l'ordre d'eux. Il l'emmène sur des scènes de guerre tous les week-ends. Que dire de la mère victime des violences conjugales? Vous imaginez ce que je vais vous dire. Je vais dire plusieurs choses. La première, si je retrouve... Patricia Romito, dans L'enfant et les violences conjugales, cite un auteur américain qui s'appelle Down, D-O-W-D, et qui écrit « Imaginez la vie d'une femme battue par son partenaire dépasse l'entendement de l'individu moyen, c'est-à-dire moi et peut-être vous. Et l'attitude qui consiste à nier l'histoire de cette femme peut être plus commode que celle de la regarder en face. » Un autre auteur, un psychiatre américain, cité par Marie-France Irigoyenne dans « Femmes sous emprise », dit... j'ai perdu la citation dans ma tête. La femme victime de violences conjugales ne présente pas de faille qui serait susceptible d'expliquer qu'elle est victime de violences conjugales. La configuration de la relation suffit à expliquer le piège. Vous voyez, c'est pas parce qu'elle est victime qu'elle est défaillante, qu'elle est victime. Et Paul Ricoeur dit dans Soi-même comme un autre, la violence, c'est la destruction par un autre de la capacité d'agir d'un sujet. La violence, c'est la destruction par un autre de la capacité d'agir d'un sujet. Lorsque je suis en présence d'une femme victime de violence conjugale ou d'une mère victime de violence conjugale à une audience, je suis en présence d'un être humain dont la capacité d'agir a été détruite par le violent conjugal. Je vous raconte une scène. La famille est réunie autour de la table pour dîner. Et pendant le dîner, la mère dit à l'un de ses enfants, son fils aîné, qui est à peu près, doit être en CM2, donc il a eu quoi, 8-10 ans, 10 ans. Et elle lui dit, dis donc, je suis allé vous chercher à l'école tout à l'heure, j'ai parlé avec ta maîtresse, elle m'a dit que tu lui avais menti aujourd'hui. Je ne veux pas que tu mentes à la maîtresse. Le père la projette par terre. Et il lui dit, tu ne parles pas comme ça à mon fils. Alors elle va se réfugier dans sa chambre. Il va la chercher dans sa chambre. Il la ramène par le col. Il la pose sur la chaise. Et il lui dit, maintenant tu manges. Et moi, je vais dire à cette mère, madame, j'apprends que votre enfant ment à l'école. J'ai lu ça dans l'information préoccupante. Il faudrait que vous fassiez preuve d'un petit peu plus d'autorité. Et quand l'adolescent va développer les troubles que je vous ai décrits tout à l'heure, on va dire, madame, on va confier l'enfant au père parce que lui, au moins, il sait le tenir. C'est comme ça que nous agissons. Je refais la scène. On n'est pas dans conflit. On est dans violence. En disant tu n'as pas le droit de mentir à la maîtresse, elle dit qu'elle est un sujet de l'éducation de son enfant. Elle dit tu n'as pas le droit de mentir à la maîtresse. Le père la projette par terre. Tu parles pas comme ça à mon fils. Et peut-être bien que le fils dira t'as pas le droit de me dire de pas mentir. La violence n'est qu'un instrument pour obtenir ceci. La civilisation, la maturité, c'est renoncer à ça. D'ailleurs, souvent, moi je dis aux adolescents délinquants, plutôt au pénal d'ailleurs, je leur dis, vous savez, la force, c'est de se maîtriser. Se laisser dominer par ses pulsions, c'est la faiblesse. Je pourrais aussi dire, pour passer sur mon petit 3 sur la parentalité du violent conjugal, je pourrais citer Georges Bernanos dans « Sous le soleil de Satan ». Pour beaucoup de niais vaniteux que la vie déçoit, la famille reste une institution nécessaire, puisqu'elle met à leur disposition et comme à portée de la main un petit nombre d'êtres faibles que le plus lâche peut effrayer. Car l'impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d'autrui. S'agissant du violent conjugal, Savez-vous pour quelle raison une juridiction pénale peut condamner un violent conjugal? Il y en a une seule. C'est parce que c'est un choix. Aucun comportement humain n'est susceptible d'une répression pénale s'il ne résulte pas d'un choix de celui qui commet cet acte. C'est au principe même du droit pénal général et, oserais-je dire, de la démocratie, ce qu'on appelle l'élément intentionnel de l'infraction. Nul ne peut être déclaré coupable d'un fait qu'il n'a pas choisi de commettre. On dit abolition du discernement. C'est rare, très rare. Vous n'avez pas l'air de me croire, mais Alain Legrand, président de la FNACAV, Fédération nationale des associations et centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales et familiales. Peut-on observer des caractéristiques psychologiques particulières à la personnalité de l'auteur de violence? Oui. Parce qu'effectivement, on peut observer chez eux des traits de personnalité spécifiques qui à la fois sous-tendent les motivations à l'origine de l'agir violent et renforcent la probabilité d'occurrence de ces passages à l'acte. Non. Parce que dans cette logique probabiliste où le type et le nombre de traits de personnalité incriminés ainsi que la gravité des troubles en jeu vont déterminer un risque plus ou moins élevé d'apparition de la conduite, il est également possible que le sujet adopte une autre conduite. Autrement dit, la violence reste un choix parmi d'autres possibles, une décision opérée à différents niveaux d'élaboration psychique par un sujet selon des caractéristiques qui le définissent personnellement. La violence reste un choix. Et on ne transgresse pas la loi impunément. D'ailleurs, on sait très bien le rappeler aux enfants. Cela dit, on peut trouver des traits de personnalité chez les violents conjugaux, et ces traits sont consensuels. Je l'ai dit rapidement en vous invitant à penser ce que ce trait de personnalité nous disent des capacités parentales du mari violent. L'intolérance à la frustration. Peut-on être parent sans devoir surmonter des frustrations? Les hurlements du nourrisson la nuit. C'est par là que ça se passe, non? Il faut se contenir, non? Les fugues de l'adolescent la nuit. Il faut se contenir aussi, c'est frustrant. Autre trait de personnalité, immaturité. Est-ce que pour être parent, il faut faire preuve de maturité? Autant que possible. Défaut d'empathie. J'ai du mal à imaginer que mon enfant a des besoins différents de moi. Et j'ai du mal à imaginer que ses besoins sont prioritaires aux miens. Déficit de tolérance pendant les périodes d'autonomisation de l'autre. On voit le lien avec le deuxième trimestre de grossesse, puisque là, il y a un troisième qui arrive, qui commence à être de plus en plus visible. Et qui rameute du monde. Et qui fait qu'il faut que j'aille voir la sage-femme ou le gynécologue régulièrement. Donc autonomie, donc présence des tiers, perte du pouvoir, risque de perte du pouvoir. Mais éduquer un enfant, est-ce autre chose que de lui apprendre progressivement à devenir autonome, c'est-à-dire un sujet capable de vivre en société en respectant la loi. Il commence à dire non, il commence à marcher, il et surtout elle commence à avoir des petits copains ou des petites copines. Perte de contrôle par l'autonomie de l'autre. Vous savez que 40 à 60% dit, c'est pas parce que c'est un mari violent que c'est un mauvais père. On sait que 40 à 60% des enfants témoins de violences conjugales sont directement victimes de violences physiques exercées contre eux par le violent conjugal. En clair, dans un cas sur deux, quand le père ou le beau-père est violent avec la mère, il est aussi violent avec l'enfant. On fait des visites médiatisées pour moins que ça. Hein ? Mais avouez que c'est insuffisant. Eh bien, ce que la recherche démontre aussi, c'est que la fille d'un violent conjugal court 6,5 fois plus de risques qu'une autre fille d'être victime d'agressions sexuelles ou de viols incestueux. 6,5 fois plus de risques. Parce que le pouvoir passe aussi par le sexuel. Alors, cela étant dit, dans les 6 minutes qui restent, que faire ? Si vous me donnez peut-être un peu plus, je peux. Donc, que faire? Première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut penser la parentalité de l'agresseur à partir de ce que révèle sa violence dans la conjugalité. Nous avons tendance à séparer prématurément, pour parler comme Karen Sadlier, le conjugal et le parental. Nous avons tendance à dire, mais les violences conjugales, c'est dans votre couple. Moi, je suis là pour vous parler des enfants. Je vous propose de penser la parentalité de l'agresseur à partir de ce que révèle sa violence dans la conjugalité. Et quand un juriste dit « révèle », c'est qu'il utilise un mécanisme juridique de preuve extrêmement courant qu'on appelle la présomption. Je vous propose de présumer qu'un mari violent est un père dangereux. Alors, premier moyen, connaître la stratégie de l'agresseur. Elle a été conceptualisée par Marie-France Casalis et Emmanuel Piette du collectif féministe contre le viol pour les violences sexuelles et Ernestine Ronet pour les violences conjugales. Qu'est-ce que c'est la stratégie de l'agresseur? Ces professionnels se sont rendus compte en écoutant les femmes victimes de violences que leur histoire était toujours une histoire singulière, différente, mais qu'elles disaient toutes toujours la même chose, ce qui s'appelle la stratégie de l'agresseur. Première étape, il recherche sa proie. Deuxième étape, il l'isole. Troisième étape, il crée un climat de peur et de terreur en commençant par des micro-violences. Quatrième étape, il exerce des violences. Cinquième étape, il inverse la culpabilité. Sixième étape, il recherche des alliés, c'est-à-dire nous. Septième étape, il assure son impunité. Il faut connaître la stratégie de l'agresseur pour que nous adoptions des pratiques professionnelles protectrices, une stratégie de protection. Et j'ai oublié dans la stratégie de l'agresseur, dans le climat de peur et de terreur, qu'il la dévalorise, il l'humilie. Et donc, un exemple, il l'isole, je crée du réseau. Je me souviens, on m'avait raconté qu'un service de protection de l'enfance d'un département rural avait été amené à s'occuper d'une femme victime de violences conjugales en milieu rural. La première chose que ces professionnels avaient fait, c'est qu'ils lui avaient acheté une mobylette pour qu'elle soit plus isolée. C'est beau ça, non ? Il l'isole, je crée du réseau. Deuxième exemple, il la dévalorise, je la valorise. Il y a 3 semaines que je prépare un projet de sortie avec elle. et que j'ai trouvé un studio ou un CHRS où elle va pouvoir être orientée avec les enfants, puisqu'on sait que c'est grave, j'ai fait le DU. Et la veille, elle vient et elle dit, écoutez, il a changé. Et il m'a promis qu'il ne recommencerait plus. Donc les enfants et moi, on est protégés, on n'a plus besoin de partir. Je respecte ses décisions. Parce que ce n'est pas un objet. Je serai toujours là, bah écoutez, moi j'ai préparé ça, écoutez, tout ça c'est dans le tiroir. Et le jour où vous avez besoin des attestations, c'est là. Mais vous savez, dire qu'il a changé, mon expérience tend à me prouver le contraire. Je vois, moi, en audience, parfois, le père est incarcéré pour des violences conjugales ou des violences sexuelles contre les enfants. Et la mère dit, mais peut-être que quand il va sortir, je vais me remettre avec lui. Je la comprends d'ailleurs. Elle l'aime. Elle a le droit. Elle n'est pas violente, elle. Simplement, il faut l'aider à comprendre qu'autre chose est possible. Si je la dévalorise, j'agis comme l'agresseur. Il lui dit, de toute façon, t'es nulle. Si moi, je lui fais comprendre que je pense aussi qu'elle est nulle, je suis dans la stratégie de l'agresseur. Il inverse la culpabilité, eh bien, je replace la loi à sa place. La loi est première sur le soin. Avant de dire à une femme victime de violences conjugales, Madame, vous devriez aller vous entamer une cure de psychanalyse pour arriver à comprendre ce qui, dans votre petite enfance, explique qu'aujourd'hui vous génériez des violences conjugales chez votre partenaire, je ferais bien de me demander si je lui ai rappelé que la violence est interdite par la loi et que son mari n'a aucune raison légitime d'exercer des violences contre elle. Deuxième, troisième, donc premier, c'est la présomption. Deuxième, c'est la stratégie de l'agresseur. Troisième, c'est le repérage systématique. J'ai encore 5 minutes. Pas plus. Le repérage systématique. On peut repérer par les signes ce que vous avez fait tout à l'heure quand je vous ai dit les signes et que vous avez vu des visages. Et on peut voir dans nos fonctions respectives des signes. Et c'est un bon moyen de repérer, sauf qu'on peut dire que dans la quasi-totalité des professions qui sont représentées ici, par hypothèse, la prévalence des signes est extrême. Mais il faut aller dans le repérage systématique. Et je vous suggère de cliquer sur Internet. Vous mettez MIPROF, MIPROF, espace, Anna. Il y en a qui connaissent Anna? A2NA. Anna, c'est une femme qui va chez le médecin. C'est sur le repérage systématique. MIPROF, MIPROF, espace, Anna. Elle s'appelle Anna. Puis après, vous le regarderez Elisa, qui va chez sa gynécologue ou sa sage-femme. Et puis après, vous regarderez Tom et Léna. Pour vous donner envie d'aller voir Tom et Léna, sont un frère et une sœur victimes de violences conjugales. Tom, c'est Swan Arlo. Vous connaissez Swan Arlo? Bon, alors allez voir Tom et Léna. Qui ont été faits par Ernestine Ronai et Johanna Bedeau, magnifique réalisatrice. Alors, le repérage systématique. Je vous donne un cas où je me suis planté magistralement et un cas où j'ai bien réussi. Ou alors que le cas où j'ai bien réussi. Mais alors en même temps, c'est un peu ambivalent parce que c'est quasiment les mêmes. Bon, le premier cas, j'ai réussi. Je suis saisi en assistance éducative. Pardon, je suis saisi au pénal pour un enfant délinquant et que je reçois en interrogatoire de première comparution parce qu'il lui est reproché d'avoir exercé des violences volontaires contre sa petite amie au lycée, mâchoire détruite. Et donc 16-17 ans. Et je procède à l'interrogatoire de première comparution en deux étapes, comme toujours. Première étape, interrogatoire sur les faits, qu'est-ce que vous avez fait? Deuxième étape, interrogatoire sur la personnalité. Et il était assis à côté de son avocat et derrière sa mère. Le père n'était pas là. Et donc, dans l'interrogatoire sur la personnalité, ou d'ailleurs sur les faits, je ne sais plus, je lui dis, mais avez-vous déjà vu un homme exercer des violences contre une femme? Je dis, bon, fallait y penser, ça tombe sous le sens en même temps. Encore faut-il de lui demander. Et là, instantanément, une larme a coulé sur la joue du fils et sur la joue de la mère, derrière elle, derrière lui, en même temps, dans le silence absolu. Comment est-ce qu'on peut lui rappeler la loi si on ne vient pas chercher la transgression de la loi chez lui? On dit que l'enfant, il acquiert la loi par le père, qui incarne la loi. Dans violence conjugale, c'est le père hors la loi qui incarne la loi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le condamner, mais peut-être qu'il faut le mettre en prison. Je ne dis pas le contraire. Je dis que si je veux le rejoindre, il faut que j'aille là. Sinon, je parle d'autre chose. On peut dire qu'on parle d'autre chose. Souvent, je dis ça pareil aux adolescents en assistance éducative qui ont des conduites à risque extrême et qui sont victimes d'exploitation sexuelle ou dans des conduites de toxicomanie extrême. Et d'ici, on ne parle pas du trauma, si on ne vient pas chercher le trauma, comment est-ce qu'on peut travailler les conduites dissociantes qui permettent de faire échec à la mémoire traumatique? La scène, je fais des cauchemars même quand je ne dors pas. Pour ça, je suis prêt à tout. Pour que ça ne s'allume pas dans ma tête. Vous êtes d'accord? Muriel Salmona, vous connaissez Muriel Salmona? Hier, à l'école de la magistrature, elle le dit souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu dire, elle parle d'une adolescente qui, pour éviter la reviviscence traumatique, se met au quatrième étage sur le barreau de la fenêtre, assise avec un Walkman, et qui se balance dans le vide. Je dis ça. Vous direz bien que j'ai dit que c'était Muriel Salmona. Je lui restitue cette scène extrêmement parlante. Parce qu'elle disjoncte. Comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes si on ne veut pas chercher pourquoi ils cherchent à disjoncter? Je me trompe peut-être, mais je me dis qu'ils sont comme ça, et nous on est comme ça. Ou comme ça. Ou là, je sais pas. Mais qu'on les rejoint pas. On peut leur dire que la drogue, c'est mal. C'est mal. On peut leur dire que c'est dangereux. Beaucoup de choses. C'est vrai. Mais comment est-ce qu'on peut éviter la conduite dissociante, jusqu'à la violence elle-même d'ailleurs, si on ne veut pas chercher le trauma? Donc, ça, c'est dans... J'étais où, là? Est-ce que j'avais réussi? Oui, bon, bah, ça suffit. Tenons-nous-en à ça. Bon, alors donc, l'échec monumental. Parmi les autres échecs, évidemment, moi, je serai, au jour du jugement dernier, je serai jugé sur mes erreurs judiciaires. Il faudra bien rendre compte de tout ça. Et donc, l'échec, c'est que je suis en interrogatoire de première comparution, que j'ai le garçon devant moi, son avocat à côté, la mère derrière. Ici, à Bobigny, il n'y a pas si longtemps que ça. Et interrogatoire sur les faits, c'était des dégradations volontaires, ça n'avait rien à dire. Je me dis, bon, Edouard, il faut que tu fasses du repérage systématique. Ça, j'ai raison. Et vous devez le faire. Et donc, Ernestine Ronette dit, pourquoi, quand j'étais psychologue scolaire, j'ai eu un enfant sur deux? Au début, j'en avais pas. Mais c'est quand j'ai posé la question que j'en ai eu. On dit aux victimes, il faut parler. Mais il faut qu'elles parlent. Pour qu'elles parlent, il faut qu'elles voient que le professionnel s'intéresse à ce qu'elles vivent et soit en capacité d'entendre. Il y a une manière, c'est de poser la question. Et si c'est non, c'est non. Ou alors, elle raconte, Ernestine Ronet, qu'une fois la dame dit non. Et puis, 15 jours plus tard, elle revient et dit, vous savez, un jour, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu non, vous pouvez me la reposer. Et donc, je dis à la mère, vous vous souvenez, là où j'avais été un bon juge, je dis au garçon, avez-vous déjà vu un homme être violent contre une femme? Instantanément, une larme coule sur la joue de la mère et du fils en silence. Bon juge. Là, je dis à la mère, bon, vous êtes séparés, est-ce qu'il y avait de la violence à la maison? Le juge lui pose la question. On ment pas à un juge. D'ailleurs, on ment pas. Donc elle dit oui. Le garçon a explosé. Pourquoi? Linda Tromeleux, qui est une psychologue qui travaille dans les programmes de soins pour les agresseurs, dit deux choses, je le dis maintenant. Elle dit, un, il ne faut pas se laisser infiltrer par la pensée de l'agresseur parce qu'il s'agit de grande criminalité. Et elle dit, deux, l'agresseur, le violent conjugal, a remplacé l'interdit de la violence par l'interdit de la parole. Qu'est-ce que je demande à cette mère ? De transgresser l'interdit de la parole. Il ne peut pas l'entendre, il a explosé. En même temps, ça crée des liens. Maintenant que je le revois, il y a quelque chose qui a été créé dans ce conflit-là, même s'il y avait un peu d'asymétrie. Bref. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? J'ai bien fait de poser la question. La réponse était oui, d'ailleurs. Je ne prenais pas de risque. Des enfants délinquants, je ne prends pas de risque. En soi, c'est un signe. Mais j'aurais dû poser la question séparément. À bon entendeur, salut, mes chers collègues. Il faut poser la question. Si c'est non, c'est non. Le repérage systématique. L'exercice de la parentalité. Bon, est-ce qu'il y a un juge d'affaires familiales dans la salle ? Est-ce qu'il y a un juge des enfants dans la salle ? Donc vous allez peut-être me dire que c'est à moi de traiter ce problème. Vous avez raison. À ceci près que je ne rencontre nos semblables que dans un espace artificiel qui s'appelle un tribunal et dans un moment de leur vie très artificiel qui s'appelle l'audience. Autrement dit, que je ne me mets à penser que lorsque vous me donnez les mots pour le faire. Vous ne pouvez pas attendre d'un juge ce que vous ne lui écrivez pas. C'est très important. Donc, présumer qu'un mari violent est un père dangereux, ça veut dire droit de visite médiatisé. Sinon, vous courez le risque qu'elle fasse partie des 6,5% de filles. Enfin, elle fait déjà partie des 6,5% de filles qui courent 6 fois plus de risque. Enfin, je ne retrouve plus la formule. Vous prenez le risque qu'il fasse partie des 1 enfant sur 2 victimes de violences physiques. Mais pourquoi pas ? On dit souvent... au maire, écoutez, tant qu'il n'a pas donné de coup à l'enfant, tant qu'il n'y a pas de bleu, on ne peut pas saisir le juge. Mais si on peut, la raison nous permet de le faire. La violence conjugale nous permet de dire droit de visite médiatisé ou mesure d'accompagnement protégé. D'accord ? Exercice exclusif de l'autorité parentale pour la mère. Sinon, l'exercice de l'autorité parentale devient un outil pour perpétuer l'emprise. J'ai l'autorité parentale. Il paraît que c'est grave. Mais moi, je refuse que mon enfant aille voir un pédopsychiatre. Vous le savez, vous l'avez vu, je l'ai vu. Ça, c'est le droit de veto. Puis il y a l'emprise. J'exige que notre enfant fasse du foot. Comme ça, je suis sûr que tous les jours, de 5h30 à 7h, tu es avec lui à l'entraînement et que tu es au tournoi tous les samedis et tous les dimanches. On dit une société sans père est une société sans repère, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord, sauf quand les pères font le choix de la violence. Mais donc on valorise ça beaucoup. Sauf que là, on est dans l'emprise. Il est à 200 km ou 500. La séparation a eu lieu il y a 10 ans. Mais continue à exercer l'emprise. Et puis, pendant l'été, tiens, il inscrit son garçon au stage de foot à Clairefontaine pendant les périodes de vacances de la mère. Alors, une année, elle dit, écoute, là, non. Non, Jonathan, non, cette année, non, tu n'y verras pas. Imaginez le rapport mère-fils. Facile à tenir la position. Être le choix entre toujours obéir, même après la séparation, pourtant c'est pour ça que je suis parti, ou bien être le mauvais objet. Et imaginez qu'elle saisisse un juge aux affaires familiales. Pour dire j'en peux plus, on dira vous faites de l'aliénation parentale. C'est tout. C'est simple. Il faut le savoir et vous devez l'écrire. Ensuite, oula. Alors, donc je termine. La protection de l'enfance. Est-ce que les enfants délinquants, est-ce que les enfants victimes de violences conjugales sont des enfants en danger au sens de l'article 375 du Code civil? Est-ce que ça veut dire que 100% des enfants victimes de violences conjugales doivent se retrouver dans le cabinet du juge des enfants? Non. Le juge des enfants, le modèle pour le juge des enfants, c'est les deux parents sont dangereux. Il y a un modèle pour différent, quand il y a un parent protecteur et un parent dangereux, c'est le juge d'affaires familiales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'informations préoccupantes, de signalement ou saisir le juge des enfants. Ce qui compte, c'est l'application de la loi pénale et un jugement du juge aux affaires familiales sur le modèle de la violence et pas sur le modèle du conflit. Le pire, moi, c'est quand je suis saisi en alternative aux poursuites. Ce qui veut dire, vous, quand vous faites une IP ou un signalement, vous dites, moi, je suis protection de l'enfance. J'ai mon couloir, protection de l'enfance. Donc, quand j'écris pour le professionnel suivant de la protection de l'enfance. Et on oublie tous que dans le couloir d'à côté, c'est le couloir du pénal. Et le couloir à côté, c'est le couloir du juge aux affaires familiales. Donc quand vous écrivez pour les trois. Spécialement à tous les agents publics ici présents. Article 40 du Code de procédure pénale, tout agent public qui a connaissance d'une infraction doit la porter à la connaissance du procureur de la République. Ce n'est pas parce que vous êtes en protection de l'enfance que vous ne vous envoyez pas des clignotants pour dire « Attention, c'est du pénal. Il faut une enquête pénale. » Vous me suivez ? Quand on fait de l'assistance éducative, on doit agir sur le modèle de la violence et pas sur le modèle du conflit. D'accord ? C'est-à-dire en clair, là où dans un cas de violence conflit conjugal, je vais mettre une mesure de milieu ouvert qui sera chargée, disons, de faire médiation. Pardon pour les médiateurs ici présents et médiatrices, je sais bien que c'est une compétence et une mesure spécifique, mais on sait très bien qu'on va agir dans un registre qui va être de l'ordre de la médiation. Dans mon audience, dans vos bureaux, vous allez y arriver, vous pouvez être parents ensemble. Dans violence conjugale, je ne dois pas faire médiation, je dois faire frontière. Je suis garant qu'il ne va pas utiliser la parentalité, les enfants, pour reprendre le pouvoir sur elle. Et vous vous débrouillez comme vous voulez pour la réunion parents-prof. Entre le loup et l'agneau, être neutre, c'est être du côté du loup. D'accord ? Ensuite, la mesure de placement. Est-ce qu'il faut placer les enfants victimes de violences conjugales ? Je termine, deux mots, hein, une minute. Je ne suis pas fan, vous l'imaginez, pour plusieurs raisons. Un, c'est la stratégie de l'agresseur. Il dit, de toute façon, si tu vas au commissariat ou à l'assistante sociale, ils vont placer les enfants. Oui, dans quoi on place les enfants ? Deux, ça me paraît immoral. Ça me paraît immoral de dire à une femme, écoutez madame, vous êtes victime de violence, donc on vous retire vos enfants. On n'est pas là pour faire de la morale, je suis d'accord, mais on fait ça tous les jours avec les familles. Trois, ça ne me paraît pas pertinent sur le plan éducatif. Pourquoi ? Parce que si l'enfant victime de violence conjugale ne voit pas sa mère, il ne sait pas si elle est morte ou vivante. Donc on le place dans un foyer, donc il fugue. Donc on le place dans un centre fermé, d'où il fugue. Donc on le place tout en haut de la montagne dans le CER montagne ou tout en bas dans le sous-marin, dans le CER sous-marin. Moyennant quoi il fugue en se mettant plus en danger. Et s'il est tout petit, il arrête de manger. Au bout d'une semaine, on le rend à sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les protéger. Vous savez, parfois on dit ou on entend dire, là c'est le mot de la fin. On dit, la violence, ça fait partie de la vie. Eh bien, moi, je crois que c'est faux. La violence, ça fait partie de la mort. Et dans l'existence, la vie et la mort se croisent tellement que souvent, on les confond. Mais le sens de l'existence humaine, c'est de dénouer l'enchevêtrement entre la vie et la mort. Et sans doute, le rôle important du juge, mais de tous les professionnels, est-il de dire ce qui sépare la vie et la mort, la loi. Je vous remercie de votre attention.
On a peut-être le temps pour une ou deux questions. Oui, là-haut, je vois là-haut une main qui se lève. Une question peut-être.
Avec une question sur l'alliance et le détachement, non?
Non, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas encore. Mais madame, elle en a une. Voilà, juste encore quelques minutes d'attention, s'il vous plaît. Merci. Oui, madame.
Bonsoir. Donc moi, je suis fonctionnaire de police en brigade de protection des familles à Montreuil. Donc votre intervention prend tout son sens. Merci de votre intervention. Et j'ai deux petites questions qui vont être... Mes questions seront rapides.
D'accord.
La première, c'est est-ce que vous communiquez avec les magistrats? Alors chez nous, c'est l'adaptaire, ceux qui s'occupent en fait... c'est le parquet qui s'occupe des violences conjugales. Est-ce que vous avez une communication avec ces magistrats-là? Et ensuite, comment est-ce que nous, dans le cadre de violences conjugales, nous, on n'a aucun lien avec le juge des enfants ou avec les magistrats qui s'occupent des mineurs. Est-ce que nous, dans notre rôle d'enquêteur, on peut intervenir et faire remonter l'information jusqu'à vos services?
Alors, premièrement, oui, nous communiquons, particulièrement avec la section des mineurs du parquet de Bobigny, la DIFAGE. À l'adaptère, vous avez la chef adjointe de section, qui est Madame Geste, que vous connaissez sans doute, qui est magistrate absolument magnifique et qui a une compréhension du problème, qui est très protectrice des victimes. Donc c'est une interlocutrice pour vous de premier plan et très rassurante sur le plan professionnel. Et ce qui est très important, c'est de respecter les circuits de transmission, parce que ça vous met à l'aise et ça vous permet de continuer à le faire. Mais de suggérer de le faire, vous, c'est au parquet surtout que vous transmettez. Et c'est important de continuer à le faire, en suggérant peut-être, mais est-ce que ce ne serait pas utile qu'il y ait un passage par le juge des enfants, vous voyez, ou que ce soit communiqué au juge des enfants? Mais il arrive assez fréquemment, par exemple, moi si je suis saisi, pour être plus clair encore, hein, par le procureur de la République, dans une requête, au vu d'un signalement du conseil départemental qui me dit l'enfant est victime de violences conjugales, soit dans la requête, le procureur me dit une enquête pénale être diligentée au moment même où je vous saisis, soit ce n'est pas écrit et immédiatement je lui renvoie un soit transmis en me disant tenez-moi informé des suites de l'enquête pénale en cours pour être sûr qu'il y aura une enquête. Et ensuite, il me transmettra le plus souvent la copie des procès-verbaux d'enquête, en tout cas ceux qui peuvent m'intéresser. Mais vous, si vous avez des informations, vous vous dites attention, là pour l'enfant, danger extrême, protéger la mère c'est protéger l'enfant, vous êtes à une place où vous allez transmettre l'information au professionnel suivant du tribunal et pour vous ce sera le parquet.
D'accord, donc rien n'empêche, quand on sait qu'il y a présence des enfants au cours des violences conjugales, de mentionner au procureur de la République, attention, il serait peut-être bon
au
de faire...
Au contraire, vous devez le faire, puisque élément de la qualification pénale depuis la loi du 3 août 2018. Comme vous le savez, le législateur a prévu que la présence des enfants est une circonstance aggravante des violences.
On ne sait pas.
Voilà. Alors, y avait
mais trop, je me prépare par là.
Il y avait deux possibilités de prendre en compte sur le plan pénal l'enfant en tant que victime des violences conjugales. La première, en tout cas j'en avais vu deux et proposé deux. La première, c'était de dire que les violences conjugales sont deux infractions à la fois, ce qu'on appelle juridiquement le cumul idéal de qualification, qui est possible, c'est une exception au principe non bis in idem, on ne peut pas être condamné deux fois pour la même chose, sauf que lorsqu'il y a pluralité d'intérêts sociaux défendus par la société et pluralité de victimes. Et là, on aurait pu dire, le passage à l'acte violent est une violence contre la mère et une violence contre l'enfant. Un fait, deux poursuites pénales, deux infractions. Et là, l'enfant aurait été victime de l'infraction. Deuxième possibilité, c'est celle qui a été retenue par le législateur, c'est de dire, quand il y a des enfants, c'est une circonstance aggravante, quand les enfants assistent aux faits violents. Bien sûr, c'est très important.
Merci.
Il faudra aller avoir troisième champ, qui serait un administrateur ad hoc, systématique, pour demander des dommages d'intérêt pour l'enfant au moment du procès pénal.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous de votre attention.
Demain matin, donc, les gens du DPC